Dans le cadre de Vinapogé 2024, nous vous présentons une conférence intitulée Vive la maturité, animée par Olivier Bompas. Après des études de restauration au lycée hôtelier de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie, il prend la direction de l'espace Hérault en 1990 à Paris, maison de province consacrée entre autres à la promotion des vins du Languedoc. En 2000, il s'installe à Nîmes, sa ville natale, en qualité de sommelier consultant et formateur auprès de l'Université du vin de Suze-la-Rousse. De 2011 à 2015, il est président de l'Association des sommeliers de la région. En parallèle de ses activités, il travaille aux côtés du journaliste Jacques Dupont, d'abord pour le magazine Gomio, puis pour Le Point, dont il s'occupe aujourd'hui de la rubrique Vin. Il est également l'auteur de nombreux ouvrages, comme le petit dictionnaire Hachette des accords mets et vins et l'encyclopédie Hachette des accords mets et boissons.
Alors, lorsque David m'a demandé d'intervenir et de venir parler de cette notion de maturité et d'apogée des vins, c'est le nom du salon, évidemment, j'ai quelques souvenirs qui sont remontés à ma mémoire parce que j'ai une petite trentaine, pas une petite, un peu plus que 30 ans d'activité dans le vin. C'est ce que je venais d'expliquer. J'ai commencé dans la sommellerie. Et donc, ma culture du vin, elle est là. Moi, j'ai fait, pour faire très court, un bac philo et une école hôtelière après. Et je voulais faire de la cuisine, j'ai rencontré un chef cuisinier du Sud qui m'a dit oh, « ça tombe mal, j'ai besoin d'un sommelier », ça a commencé comme ça. Et comme quoi, la vie, hein, j'avais pas de plan de carrière. Et voilà. Et alors, 30 ans après, une grosse dizaine d'années plus tard, j'ai rencontré à Paris Jacques Dupont, qui était un grand journaliste du vin, et qui l'est toujours, mais qui était déjà à l'époque un grand journaliste du vin. Il travaillait chez Goemio, puis il a été directeur du magazine, et il m'a embarqué dans l'aventure du journalisme, voilà. Alors j'ai commencé, je faisais des petites piges, j'écrivais sur le vin et les cigares. J'étais jeune sommelier, j'étais tout fier de moi, je fumais des cigares, c'était moins cher qu'aujourd'hui, les Havanes. Et puis on buvait des eaux de vie, on buvait des Porto, on buvait des vins doux naturels du Roussillon avec ça, enfin voilà. Je faisais une espèce d'accord cigare et vin. Ça a été mes premières petites piges, voilà. Et puis bon, pour vous faire très court, un peu plus de 30 ans plus tard, je suis aujourd'hui totalement à la rédaction du Point. On travaille avec Jacques toujours, et tous les deux, et on s'occupe de la rubrique vin. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça en préambule? Ben, pour que vous me situiez dans l'univers du. On vient de parler de Laure Gasparotto, par exemple, qui est historienne, etc. Bon, pour que vous puissiez me situer dans cet univers du vin. Évidemment, quand David m'a parlé de ça, j'ai eu des souvenirs de dégustations qui sont remontés. Parce qu'en 30 ans, c'est pas vous que je vais le raconter, vous avez aussi, vous, des expériences de dégustation. Alors, quand on fait mon métier, on goûte beaucoup de vins jeunes. Parce que je suis journaliste, que j'écris des articles et que, a priori, je vais citer des vins que nos lecteurs, c'est une espèce de petit guide d'achat, nos articles, donc que nos lecteurs peuvent trouver chez les vignerons. Alors en général, les vignerons ou les vigneronnes nous font goûter des vins relativement récents, les vins qu'ils ont en vente, quoi. C'est un peu l'idée. Mais évidemment, on a fait beaucoup de dégustations, ce qu'on appelle des verticales, c'est-à-dire des dégustations où on remonte dans le temps et on va goûter plusieurs millésimes. Parfois, ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de millésimes. Je vous citerai la dernière grande dégustation que j'ai faite, on en parlera un peu plus tard. Et donc, évidemment, et puis quand on va goûter chez un vigneron, on finit toujours avec une bouteille un peu plus ancienne, etc. Alors, parmi ces souvenirs, il y en a un qui reste gravé quand même dans ma tête. C'est peut-être pas la dégustation la plus spectaculaire que j'ai faite. Et vous comprendrez ce que je veux dire. Ça remet pas du tout en cause la qualité des vins que j'ai goûtés. Mais c'était plutôt intimiste et c'était pas. Enfin, vous allez comprendre parce que je vais vous raconter. C'est René Rougier, le Château Simone. Le Château Simone, c'est un des grands domaine, même on peut dire prestigieux, un grand domaine français, et c'est un des grands domaines du vignoble provençal, dans la micro-appellation Palette, qui est toute petite, et le Château Simone, c'est véritablement une référence, je le répète, y compris au niveau national. Et c'était il y a une petite vingtaine d'années, il me reçoit, on s'installe à la table de dégustation, dans la salle de dégustation, il avait avec deux verres, une bouteille, et c'était du rosé. Et il pose cette bouteille, il ouvre son rosé. C'était le rosé, le dernier rosé qu'ils avaient mis en bouteille. Je ne sais pas si c'était le rosé de l'année, je ne sais plus à quelle date j'étais allé le visiter, mais en fait, c'était le dernier rosé. Là, pour le coup, c'était vraiment un vin en vente. Et voilà, et on parle de tout sauf du vin. Et j'ai bien senti que si je ne déclenchais pas, ce n'est pas lui qui allait attaquer sur le sujet. Et je ne dirais pas qu'il me testait, mais enfin, c'était bien imité quand même. Et donc, au bout d'un moment, alors moi, j'ai toujours trouvé, aujourd'hui avec l'expérience, un peu moins quand même, mais je me suis souvent senti, pas ridicule, mais devant le vigneron qui a fait le vin, si ce vin en plus bénéficie d'une image un peu, lui expliquer que son vin, il sent la cerise et qu'il est frais et que ceci et que cela, c'est pas toujours facile. Surtout que René Rougier, c'était quand même, c'était à l'époque un homme. Il a toujours été très charismatique, il avait une espèce d'autorité naturelle, et il avait l'âge, il y a une petite vingtaine d'années, d'être mon grand-père. Donc j'étais assis en face de ce grand vigneron, et je me suis lancé, j'ai pas dû dire trop de bêtises pour rester poli, parce qu'il s'est levé avec un petit sourire en coin, il est descendu dans la cave, il remontait avec deux bouteilles. Alors je me suis dit, ah, on va goûter le blanc et le rouge, pour finir la gamme. Pas du tout, c'était encore du rosé. Et là, c'était des vieilles bouteilles. Et là, nous en arrivons à notre thème du jour, c'était des vieux rosés. Et là, j'ai vu cet homme souriant tout à coup, avec qui j'ai échangé pendant au moins une demi-heure sur ces deux vieux rosés. Je ne vais pas vous raconter des bêtises en vous citant les millésimes de l'époque. J'aurais pu vérifier, parce qu'après, il y a eu un article. Bon, je n'ai pas là en tête, mais c'était des vins qui avaient 3, 4, 5 ans, 6 ans de cave. Et là, je suis rentré dans son univers. Et ce vigneron me parler de son rosé comme d'autres vignerons m'ont parlé d'autres fois de leur grand rouge ou de leur grand blanc. Et après 2 heures de dégustation, il y avait 15 bouteilles sur la table. Mais ce n'était pas que du rosé, évidemment. On a goûté le blanc, parce que le blanc, ça doit être grosso modo chez Simone la moitié de la production, quelque chose comme ça. C'est un des grands blancs de France. Hein. Et puis son rouge, qui est également un des plus grands rouges de Provence. Mais il y avait quand même ces bouteilles de rosé dans le lot. Et j'ai mieux compris 2 choses avec lui. C'est-à-dire, la première, c'est le besoin, non seulement pour le consommateur, pour le vin et pour le consommateur, de boire le vin à son juste équilibre, de boire le vin à son apogée, pour reprendre le nom du salon. Parce que le vigneron a besoin de ça. Le cuisinier, il veut que son assiette soit parfaite et qu'on mange le plat à la bonne température, avec le point de cuisson exact. On peut faire le parallèle avec ça. Le vigneron, souvent, le consommateur, l'amateur va acheter la bouteille, lui dire « c'est un vin de garde, monsieur ?»« Oui, c'est un vin de garde. » Et il sera bu dans aussi bien à la fin de la semaine ou dans les 6 mois. Bon. Et ça, c'est une vraie frustration pour le vigneron. Et là, j'ai compris que, et ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais que même en parlant de rosé, il ne faisait pas de différence entre son rosé, son blanc et son rouge. Pour lui, c'était ses vins. Voilà. Et la deuxième chose que j'ai apprise, pas que j'ai apprise, parce que j'avais déjà de l'expérience dans le métier, mais que j'ai confirmé quelque part, c'est que je crois qu'il faut avoir une ouverture d'esprit. Là, sur le salon, on goûte des vins très prestigieux. Il n'y a aucun domaine qui dénote. Chacun a amené en plus les millésimes qui sont parfaitement à leur apogée. Mais tous les vins ont le droit de vieillir. Et tous les vins, tous, même les vins qu'on doit boire jeunes, tous les vins ont un moment où ils sont au sommet de leur équilibre, de ce qu'ils ont à livrer. Et c'est à ce moment-là qu'il faut le boire. Alors, on n'est pas dans la bouteille, mais si on veut avoir vraiment le vin dans son entièreté, dans tout ce qu'il a à offrir. Et ce n'est pas du tout péjoratif ce que je dis pour les rosés, parce que nous, au point, on parle beaucoup des rosés. On fait un numéro sur les vins de l'été où on déguste des centaines de rosés. Donc, ce n'est pas du tout péjoratif. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'esprit du consommateur, bien sûr, il y a les grands rouges, les grands blancs. Le rosé, je connais même des amateurs de vin qui sont capables de dire un truc aussi énorme que ce n'est pas du vin. Alors que, allez demander aux vignerons, même ceux qui sont là, si c'est facile de faire du rosé. Et je ne m'avance pas en disant que certains vous répondront que c'est peut-être parfois plus difficile que de faire du blanc, ou certains blancs. Donc, je trouve que c'est important aussi. Alors, c'est peut-être ma petite déformation de sommelier. Je ne sais pas si c'est une déformation, mais je ramène toujours les choses au niveau du consommateur. Je trouve que c'est important. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est absolument merveilleux, mais il ne faut pas que ce soit que de l'entre-soi et qu'on se gargarise de goûter des vins merveilleux. C'est très, très bien, je suis le premier à le faire et à l'apprécier, évidemment. Mais c'est important aussi de se dire que cette démarche du vin mature, du vin à son apogée, on se doit, et là, c'est peut-être le professionnel qui raisonne plus que le consommateur, on la doit à tous les vins. Voilà. Alors, bien entendu, il y a les vins glouglou. Moi, j'aime pas trop ce mot. Je préfère parler des vins de soif, des vins de copains, des vins de casse-croûte. Mais enfin, on peut dire vin glouglou, c'est pas non plus très grave. Mais quoi qu'on dise, évidemment que c'est des vins qui sont faits pour être bus, jeunes. Là, l'affaire est réglée. Bon. Mais après, il y a tous les vins, à l'autre extrémité, tous les grands vins prestigieux qui vont s'épanouir et se révéler après 10, 15, 20, 25, 30 ans de cave. Et puis entre les deux, il y a tout un tas de vins qui méritent aussi beaucoup d'attention. Parce que en plus, tout le monde ne peut pas boire des vins à plusieurs, je ne sais pas quoi, moi, dizaines ou centaines d'euros la bouteille. Il y a des gens pour qui une bouteille à 10 ou 15 euros, c'est déjà de l'argent. Et on peut aussi, avec une bouteille à ce prix, avoir peut-être la patience d'attendre un an, deux ans, trois ans. Ça ne sera pas 15 ans, ça ne sera pas 20 ans. Mais on goûtera certainement le vin dans de meilleures conditions, parce que lui aussi sera à son apogée. Et si c'est au bout de trois ans, ben c'est plus rapide, et puis tant mieux, comme ça on peut aussi profiter de vins qui sont prêts plus vite. Mais voilà, de cette dégustation, j'ai retiré un petit peu cet état d'esprit, ça me semble quelque chose d'assez important. Voilà. Alors, effectivement, dans ce cas-là, on sort un peu de sa zone de confort, parce qu'on s'attend à goûter un grand rouge qui aura un certain nombre d'années de cave, etc. Sur le rosé, c'est beaucoup moins évident. Alors, c'est déroutant, on nous amène un peu en terre inconnue, hein, pour reprendre le titre d'une émission connue. Mais ça, c'est pas parce qu'on est perturbé, c'est pas parce qu'on est déstabilisé que ça interdit de chercher à comprendre. Après, on n'est pas obligé d'aimer. Ça, c'est autre chose. Mais on peut chercher à comprendre. Et je trouve que c'est... Je trouve que c'est important. Alors, je me suis servi de cet exemple du rosé pour dire simplement que je goûte toujours les vieux vins que je retrouve dans ma cave. Toujours. J'ai jamais de mépris pour une vieille bouteille, même si c'est une appellation régionale, basique, même si c'est un vin qui vaut quelques euros. Je fais toujours l'effort de prendre un tire-bouchon. Bon, je suis professionnel du vin, j'ai la chance d'avoir du vin dans ma cave. Et de temps en temps, sous des piles, là, on dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Ouh là là. Ça, on aurait dû le boire il y a longtemps. Bon, c'est pas grave. Je fais toujours l'effort de... Il part pas à la sauce. Je fais l'effort de l'ouvrir et de le déguster. Et je trouve que c'est important. Personne ne le sait, certainement pas le vigneron, mais moi, je sais que je l'ai fait. Et vis-à-vis du vigneron, je me sens... voilà, je trouve que c'est honnête. Dans la mesure où sa bouteille est chez moi et où c'est moi qui l'ai gardée peut-être même quelques années de trop, je trouve que c'est une forme de respect, voilà, sans en rajouter dans le pathos, hein, mais voilà. Et donc je trouve que c'est important, ça. Je trouve que c'est important de respecter le vin et de faire cet effort-là. Alors, nous, ce qu'on fait avec Jacques Dupont, du coup, parce que lui aussi, il a une cave bien remplie, quand on retrouve comme ça une bouteille, d'autant plus si elle n'était pas faite nécessairement pour être gardée aussi longtemps, Et d'autant plus si quand même on a une bonne surprise. Alors on fait des petits articles, on met ça sur le site du Point, ça s'appelle « Remonter de la cave », vous retrouvez dans la cave. Et on dit, voilà, on fait un article, alors on cite le vigneron en disant, bah, écoutez, sincèrement, cette cuvée, c'est pas lui faire offense que de dire qu'il aurait fallu l'avoir 10 ans plus tôt. Et bien là, étonnamment, elle a bien tenu, et voilà ce qu'on a trouvé dans la bouteille. Voilà. Et donc, on a pris l'habitude de faire ce genre de petite chronique. Ça fait 2000 signes et c'est amusant à lire. On a des réactions amusantes là-dessus parce que les gens nous disent, on décomplexe un peu les gens qui disent, ben moi, j'avais telle ou telle vieille bouteille. Je pensais que ça allait finir au fond d'une casserole pour faire une sauce. Et non, on va pouvoir l'ouvrir et peut-être se régaler avec. Alors, je reviens à mon histoire de déformation du sommelier. C'est un peu trivial de parler de ça, mais il y a l'aspect commercial dans le vin. Alors, moi, j'ai connu, quand j'ai commencé, il y a 30 ans, j'ai connu la fin d'une génération de sommeliers qui, dans les restaurants, et là, il y en a des sommeliers aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a là, mais il y en a derrière, là-bas, ils pourraient vous le raconter comme moi, hein. J'ai connu cette génération de sommeliers où c'était une époque où on buvait le vin vieux, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Les restaurateurs stockaient des vins. Même sur des appellations simples, ils avaient 3-4 millésimes. Et ils vendaient le millésime qu'ils avaient acheté il y a 4 ou 5 ans. Voilà. Et donc, ils avaient, même sur des petites appellations, chaque année, ils achetaient leur palette. Aujourd'hui, on achète, surtout les restaurateurs, ils n'achètent plus la palette. Mais à l'époque, on achetait en quantité. Et parfois, il y avait des vins qui étaient un peu fatigués. Et moi, j'ai connu des sommeliers qui rinçaient les carafes à décanter avec du Porto. Alors, ils ne mettaient pas du Porto dans le vin, mais ils rinçaient la carafe avec un peu de Porto, ils égouttaient, et les carafes étaient prêtes. Et quand le client se faisaient conseiller, ils essayaient de vendre les bouteilles un peu fatiguées. Et puis, les carafés dans ces carafes, et ça leur redonnait un petit coup de... Voilà. Et puis, c'était l'époque où on mangeait steak au poivre. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont mangé parmi vous, mais les vrais steaks au poivre qui étaient panés dans du poivre pilé, là. Hein, ça, c'était... Voilà. Et ça, c'était pareil. C'était pas pour rien. Aujourd'hui, ça, plus personne mangerait ça. Mais si à l'époque, les gens en mangeaient, c'est aussi parce que ça permettait de vendre des vins sur lesquels on était peut-être un tout petit peu moins exigeant sur la précision du vieillissement de ces vins, mais on les faisait vieillir. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'habite à Nîmes, je ne suis pas très loin de Châteauneuf-du-Pape. Les vieux châteaux, d'abord, alors à Châteauneuf, il fallait que le vin ait 15 ou 20 ans, si on l'ouvrait avant, c'était un crime. Et puis, on vous expliquait que l'odeur de ventre de lièvre, aujourd'hui, si vous dites à un jeune de 20 ans, je vais te faire goûter un vin qui sent le ventre de lièvre, à mon avis, vous n'allez pas vous faire des copains. Hein. Bon, mais moi, quand j'ai appris à déguster... Dans les vieux bouquins d'Émile Pénaud, etc., on nous parlait de ça, mais c'était une qualité. Et on était content dans ces vins-là de trouver ces odeurs un peu faisandées, ces parfums... Enfin, ces parfums, je ne sais pas si vous parlez de parfums, là, en tout cas, ces odeurs un peu fortes, voilà. Bon, il n'y avait pas la même précision sur les élevages, sur la qualité des bois d'élevage, sur beaucoup de choses. Tout ça a beaucoup évolué. Mais on ne peut pas... On ne peut pas tout renier. C'est l'histoire des vins vieux est passée par là aussi. Aujourd'hui, aller raconter à un sommelier dans un restaurant, d'abord, ça relèverait pas de la fraude, il ne faut pas exagérer, mais enfin, si on savait qu'on rince des carafes dans un restaurant, ça serait un scandale absolu. Bon, avec du Porto, et vous raconteriez ça à un jeune sommelier, il ne concevrait même pas que ça peut exister et qu'on peut le faire. Mais l'histoire des vins vieux, des vins matures, c'est passé aussi par là. Voilà. Alors... Sans aller jusque-là, je reconnais que j'ai une certaine indulgence pour les vieux vins, moi. Alors, ça n'engage que moi, ça. Mais j'ai une certaine indulgence pour les vieux vins. Je trouve que le petit défaut, de temps en temps, ça fait apprécier les qualités. C'est un peu comme chez les êtres humains. Je ne sais pas s'il y a des gens qui n'ont que des qualités. Moi, pas rencontré, j'en fais pas partie. Mais c'est ennuyeux au bout d'un moment. Donc je pense que le petit défaut, il fait ressortir. Et alors, j'ai cette forme d'indulgence, mais ça ne remet pas en question le travail du vigneron, ça ne remet pas en question la qualité des vins. C'est peut-être parce que c'est des vins qui étaient gardés un peu trop. C'est, voilà, et puis des vins qui, de par leur profil, à la base, ont évolué. Et on n'aurait peut-être pas dû peut-être les garder autant, ou peut-être en profiter plus sur la jeunesse et sur le caractère fruité. Mais j'ai de l'indulgence avec ces mains-là. D'abord, il y a un truc tout bête, il y en a plein là-bas sur le stand de Spiegelau, c'est des carafes, on peut carafer les vins, on peut essayer d'aérer un peu les vins, d'atténuer des odeurs parfois un peu comme ça, qui peuvent être un peu dérangeantes, un peu désagréables. Mais enfin, je trouve quand même que... Alors là, après, ce genre de discours, on devient vite un peu imbécile, hein. Parce que je ne vais pas vous raconter que c'était mieux avant et tout ça, et qu'aujourd'hui, on ne sait pas boire et manger, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais je pense quand même que l'ambiance générale est un petit peu, en termes de goût, de ce que les gens aiment manger, c'est un petit peu aseptisé quand même. Il y a beaucoup de consommateurs, plus ou moins jeunes, j'accable personne, moi, hein. pas spécialement les jeunes. Hein. Je ne fais pas du vieillisme, moi. Je trouve pas que les jeunes ne savent pas se nourrir ou ne savent pas boire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais l'ambiance générale est quand même... Dans l'univers du vin, aux fruits et aux fleurs, quoi. Hein. Dès qu'on sort de là, c'est un petit peu panique à bord. Hein. Et je trouve que on peut aussi expliquer qu'un vin, ça peut être aussi des odeurs un petit peu dérangeantes. Ça peut être des choses comme ça. Vous savez, quand vous mangez une vraie andouillette ou quand vous mangez certains plats, on ne va pas rentrer dans les détails, mais enfin, il y a parfois des odeurs, hein, qui sont un petit peu costauds, quoi. On n'est pas obligé d'aimer ça, mais ça existe. Il y a des gens qui le mangent. Et un vrai plateau de fromage au lait cru bien affiné, excusez-moi, mais selon ce qu'il y a sur le plateau, il ne faut pas être émotif. Hein. Bon. Donc, c'est aussi ça. C'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Manger, boire, etc. Donc, j'ai quand même cette forme d'indulgence. Je pense que le critère, en définitive, c'est que le vin est encore... Moi, de temps en temps, on me demande, c'est quoi, comment on sait qu'un vin est mort ou qu'il est toujours bon à boire? Le souffle de vie du vin, tout à l'heure, j'ai suivi l'atelier là, de Manuel Perrondet, qui a fait une dégustation merveilleuse, et tout le talent qu'on lui connaît, Et il parlait de l'éclat du fruit. Mais je me suis retrouvé dans ce qu'il disait. C'est-à-dire que, pour moi, le souffle de vie du vin, c'est ce caractère fruité. C'est l'éclat du fruit. Le vin, c'est du jus de raisin fermenté. Et pour moi, le critère d'un vin vivant, c'est un vin dans lequel, même en fouillant un peu, parce qu'il sera très vieux, on va trouver... Alors, éclat du fruit, personnellement, c'est un tout petit peu la limite que je mettrais par rapport à ce que dit Manuel. Ça me fait plus penser à des vins, pas nécessairement jeunes, mais relativement jeunes. Mais en revanche, on peut partir sur des... Le fruit, c'est pas que le fruit frais. Ça peut être la cerise à l'eau de vie, ça peut être, pourquoi pas, l'eau de vie de fruit. Mais tant qu'on a dans le vin cette trace du caractère fruité de l'aromatique du vin... Pour moi, le vin est encore en vie, il a encore quelque chose à raconter, et il est encore intéressant pour moi. Voilà. Alors, après, ça ne veut pas dire que, même à la limite, j'aurais envie de finir telle ou telle bouteille. Quand je vous disais que j'ouvrais des vins qui sont des fois passés à date limite de consommation, enfin là, je dis ça en plaisantant, évidemment. Mais en tout cas, j'ai envie de savoir. Et j'ai envie de l'accompagner jusqu'au bout. Combien j'ai fait de repas où chacun arrive avec 3-4 bouteilles, des vins récents, des vins beaucoup plus vieux. Combien on a fait d'enterrements autour des tables? C'est-à-dire qu'on sert un vin très fatigué, qui a 30-40 ans, un copain sommelier, un copain journaliste qui dit « Ah, j'ai retrouvé ça dans ma cave, on essaie, on verra bien. » Et le vin, il a encore 10 minutes de sursaut comme ça dans le verre, et puis bon, il s'effondre, et au bout de quelques minutes, on dit « Bon, ben là... » Allez, il y a un seau au milieu de la table, on le vide. Voilà. Et parfois, le contraire, c'est-à-dire un vin un peu fermé, malgré son grand âge, et qui va s'épanouir dans le verre, et qui va avoir de nouveau 10 minutes, un quart d'heure de choses à raconter. Voilà. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, ça, dans le vin. Je trouve que c'est le côté un peu aléatoire, certes. Là, je ne parle pas nécessairement que de grands vins mythiques. Alors, on va finir là-dessus, je vous rassure quand même, parce que sinon, vous allez dire, bon, pas, il ne boit que des trucs bizarres. Hein. Mais en tout cas, voilà, je voulais apporter une autre petite touche, une autre petite tonalité à cette notion de maturité dans les vins et d'élevage des vins. Là, je parle de la bouteille, évidemment. Voilà, parce que tout ça fait aussi partie de l'univers du vin. Alors bien sûr, j'ai eu la chance de goûter des vins mythiques, et c'est sur ces vins-là, là vous pouviez le faire aujourd'hui, hein, il n'y avait que ça, c'est sur ces vins-là qu'on ressent pleinement que la notion de maturité, d'apogée des vins, traduit tout le mystère et la grandeur du vin. Le vin, c'est une boisson très mystérieuse. Comment, avec un jus de fruits, je ne vais pas non plus tomber dans la caricature, mais relativement insipide, quand on achète des bouteilles de jus de fruits pour boire du jus de fruits, le jus de raisin, ce n'est pas ce qui a le plus de goût. Comment, à partir de ce jus de fruits, à l'aromatique relativement simple, on arrive à la magie du vin? Il y a, pour moi, alors un œnologue, vous nous expliquerez, la fermentation, oui, mais tout ça, je ne le nie pas. Je dis juste que, pour moi, c'est un tour de magie, pas de faire du vin. Ça, c'est de la technique et de l'œnologie. Mais passer du jus de raisin au vin, pour moi, il y a quelque chose de magique, j'emploie un mot, évidemment, mais il y a un petit quelque chose de mystérieux. Et c'est, je crois, ce qui fait la singularité du vin. Voilà. Et alors, évidemment, ces grands vins, c'est les témoins de cette capacité à vieillir. Parce que, à part le vin, quelques grandes eaux de vie de dégustation... Qu'est-ce qu'on peut consommer qui se garde aussi longtemps? En tout cas, qu'on puisse compter en décennies. Rien. Dans l'alimentation, oui, on va affiner le fromage. Mais enfin, on parle en semaines, éventuellement en mois, mais pour les gros fromages, mais bon. Voilà, si, alors, j'avais ça dans la tête, je me suis documenté avant de venir pour pas dire trop de bêtises. Il y a les œufs de 100 ans en Chine. Oui, mais sauf qu'on les fait en 2 mois. Donc les œufs de 100 ans, on les fait en 2 mois. Bon, un vin qui a 2 mois, c'est un nourrisson. Hein. Voilà. Donc, dans tout ce qu'on ingurgite, dans tout ce qu'on consomme, le mot est plus joli, bien oui, le vin offre ça. le vin offre ça. Moi, il m'est arrivé d'ouvrir tout récemment, c'était pas du vin, mais j'ai cité les grandes eaux de vie de dégustation. J'ai ouvert, pas plus tard que la semaine dernière, une bouteille d'eau de vie de prune que mon grand-père avait distillée. Et sur l'étiquette, c'était écrit à la main. Alors, c'était émouvant parce que l'étiquette avait été écrite par mon grand-père. J'ai ouvert ça avec des cousins qui l'ont très bien connu, etc. Eau de vie de prune distillée en 1945. Donc ça venait tout juste de s'arrêter, hein, parce que la saison des prunes, là je parle sous votre contrôle, mais il me semble que la guerre s'est arrêtée officiellement en mai, et les prunes sont arrivées le mois suivant, quoi. Donc vraiment, ça a été distillé dans des conditions très particulières. Et c'était très émouvant de goûter ça. Voilà. Et alors là, je parle d'une eau de vie, parce que je parle de 1945, mais on pourrait encore trouver des vins sur le magnifique millésime 47, par exemple, de ces années-là, dans quelques caves, peut-être sur des moelleux, sur des liquoreux, etc. Bon. Donc, il n'y a rien d'autre qu'on puisse prendre en bouche et ingurgiter, faire corps avec, qui peut apporter ça. Il n'y a rien d'autre. Et encore une fois, les quelques grandes eaux de vie de dégustation. Alors, le dernier, je vous en parlais tout à l'heure, la dernière grande verticale, donc dégustation sur plusieurs millésimes que j'ai faite, c'était en 2022. Je pense qu'il y a quelques personnes ici dans cette salle qui ont eu le privilège de la faire aussi. C'était en Espagne, c'était pour les 40 ans de Vega Sicilia, qui est le grand vin mythique espagnol, qui est situé au cœur de la Castille, dans l'appellation Ribera del Duero. Et ils avaient ouvert, pour le coup, les 40 millésimes, tous conservés en magnum. Alors vous êtes tous amateurs ou professionnels du vin, vous voyez à peu près ce que ça représente. Bon. Alors, la cuvée s'appelle Unico. Bon, alors c'était unique comme dégustation, évidemment. Alors, il y a ça aussi, évidemment, parce que c'est ça. Alors, on fait les mêmes en France, hein, dans tous les grands crus français, etc. Mais le challenge de ça, en tout cas, en tant que journaliste, parce que moi, je suis une espèce de témoin, quoi, c'est comment... Parce que ça, c'est une vraie question. C'est bien beau que les vins vieillissent et qu'on tombe en pamoison devant. Mais comment on le raconte, ça? Parce que moi, quand je vous ai dit que... vous voyez, j'ai juste gardé deux, trois petits commentaires que j'avais faits. Alors, les 2014 et 2013 encore fermés et très séduisants. 2010, plein de promesses, etc. Évidemment, j'ai pris des notes qui sont beaucoup plus fournies que ça. Le très racé 98, etc., etc., le 70, c'était absolument magnifique, on est tous tombés à la renverse. Mais quand je vous le dis comme ça, vous pouvez pas imaginer le millième de ce qu'on a ressenti. Et même si je vous dis que tel millésime a senti la fraise des bois, la réglisse, et que les tanins étaient veloutés, soyeux, etc. Alors si je suis un peu poète, je vais faire deux, trois envolées lyriques, mais j'ai peur d'être plus ridicule qu'utile au débat. Ça, c'est assez compliqué. Ça, c'est une question que je me pose encore. Moi, en tant que journaliste, je fais des commentaires de dégustation pour donner envie aux gens. Mais je crois qu'ils tiennent plus compte, à la limite, des notes que je mets qui permettent simplement de hiérarchiser les vins les uns par rapport aux autres. Enfin, de hiérarchiser les vins entre eux. Voilà, donc ils s'imaginent... Enfin, c'est pas compliqué de comprendre que si je mets 15 à un vin, je l'ai un poil moins aimé que celui auquel j'ai mis 16, etc., etc. Je crois que ça, c'est un vrai indicateur. Mais les commentaires d'exagération, on les met, parce que ça donne quand même une idée à l'amateur ou à quelqu'un qui suit nos dégustations et qui se fie à ça pour éventuellement s'acheter des bouteilles. Voilà, il comprendra si le vin est plus ou moins corsé, plus ou moins léger, plus ou moins... Mais c'est ce genre de grande dégustation, par exemple cette magnifique verticale historique de Vega Sicilia, de ce point de vue, c'est une énorme frustration. Alors évidemment, c'est un bonheur absolu, un immense plaisir et un privilège d'y participer d'abord, parce qu'on se sent un peu honoré quand même quand on est là, et un peu beaucoup, et c'est un immense plaisir gustatif. Mais c'est un plaisir gustatif très personnel, j'allais presque dire égoïste. Mais après, comment traduire ce que l'on ressent au-delà de l'exercice professionnel? Voilà. Et alors c'est pour ça que je fais une parenthèse de nouveau sur le salon, là. Ce genre de salon est absolument extraordinaire parce que là, on permet à des professionnels, certes, mais eux, ils ont la chance d'y avoir accès de temps en temps, et parfois souvent, mais au moins aux amateurs éclairés, aux amateurs dans le bon sens du terme, aux gens qui aiment, on leur permet là de venir goûter des choses extraordinaires et de le partager. C'est autre chose quand on les goûte ensemble, les vins, parce qu'on partage le moment. Voilà. Mais après, comment la raconter, cette apogée, sinon de dire que, oui, c'est le point d'équilibre. Le vin, quand il est à son apogée, on n'a pas toujours la chance de le boire d'ailleurs à ce moment-là. Ça ne doit pas arriver tant que ça, statistiquement, ça ne doit pas être non plus. Mais l'apogée, c'est-à-dire qu'il n'a encore jamais été aussi bon et il ne sera plus jamais aussi bon. Voilà. Alors une fois qu'on a expliqué ça, oui, ça peut faire saliver un peu. On se dit, ah ben là, ça doit être quand même bon, quoi. Hein? Bon. Surtout si on connaît le vin en question, enfin, si on connaît l'appellation, si on connaît le profil des vins, etc. Voilà. Mais c'est pour ça que, pour moi, une façon de résoudre un peu cette question, c'est de... Je pense qu'en prenant la bouteille, sans mauvais jeu de mots, et en ayant comme ça quand même quelques années d'expérience dans le métier, je suis de plus en plus concis sur les commentaires de dégustation. Les vins, à leur apogée, en tout cas, parmi tous ceux que j'ai goûtés, ce qui était pour moi vraiment à leur point d'équilibre, ils étaient vraiment parfaitement au moment où il fallait les boire, ce que j'ai retenu de ces vins-là, ça peut se résumer en un mot, c'est l'émotion. Mais vraiment l'émotion. On a une histoire entre Jacques Dupont et moi. Un jour chez lui, il vit en Bourgogne, dans l'Yonne. Alors, ça s'appelait historiquement la Basse Bourgogne, mais enfin, il y a quand même le vignoble de Chablis, hein, c'est pas mal. Hein. Bon. Un soir, on était tous les deux, il descend dans sa cave. Alors évidemment, il est bourguignon, hein, donc il avait quelques munitions à sa disposition. Et on a bu un Charme Chambertin 90 du domaine Séraphin. Donc c'est un grand cru produit à Gevrey-Chambertin, dans le vignoble de la Côte de Nuit. Et il ouvre cette bouteille, et on était tous les deux. On ne mangeait pas là, hein, c'était vraiment où on avait terminé le repas. Je pense qu'on avait dû dîner, et puis il est descendu à la cave, et il a remonté cette bouteille. Et là, silence. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que ça sent, je sais pas quoi, la cerise à l'eau de vie, que les tanins sont fins et délicats, fondus, bon. Et il me regarde, et j'avais une petite larme aux yeux. J'avais les yeux rouges et j'avais une petite larme aux yeux. Et rien que d'en parler, l'émotion revient. Pour moi, rien n'est dit et tout est dit. Et les grands vins, les grands vins mythiques que j'ai eu le privilège de goûter, et dont j'ai eu l'impression que vraiment on les goûtait au moment où il fallait les goûter, ça se résume à ça. Pour moi, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Alors évidemment, techniquement, on va vous expliquer les tanins patinés, les tanins fondus, l'équilibre du vin, etc., etc. Mais je dirais qu'à ce moment-là, je ne veux pas être désagréable, hein, parce que c'est mon métier aussi de décortiquer les vins techniquement. Mais à ce moment-là, je vais rester poli, mais moi, j'en ai plus rien à faire de ça. C'est on est en communion avec le vin, sans, encore une fois, sans en rajouter dans la dimension émotionnelle. Mais et qu'est-ce qui peut nous procurer ça? Si vous êtes amateur d'eau de vie, un grand cognac, très vieux, enfin, XO, un cognac de plusieurs dizaines d'années de fût. Mais je trouve que là... Là, on comprend, quand on raconte ça, je pense qu'on comprend que le privilège pour un vin et pour les vins d'une appellation, d'avoir cette capacité à atteindre un niveau de maturité tel qu'ils vont provoquer comme ça une émotion, je pense que ça confère la légitimité à un vignoble. Ça confère sa légitimité à un vignoble. Je reviens dans les années 90, là j'étais plus sommelier que journaliste, et j'avais ouvert, on était à Paris, j'avais ouvert un vin qui a priori, sauf le respect que je dois au vigneron de l'appellation, parce que c'est une très bonne petite appellation du Languedoc, mais c'est peut-être pas le vin qui faisait le plus fantasmer les gens, c'était l'appellation Fitou, dans l'Aude. Et j'avais ouvert, alors on était au début des années 90, et j'avais ouvert à quelques vignerons qui faisaient, je ne veux pas dire de bêtises, leur premier salon des caves particulières à Paris, ou le deuxième, mais enfin, c'était vraiment le début des années 90, c'était le renouveau du vignoble du Languedoc. Et je leur ai ouvert une bouteille de Château de Nouvelle, la famille d'Orafort à Fitou, 78. Je veux dire qu'en 78, les vins du Languedoc, les gens se battaient pas pour les acheter. Hein. Et j'ouvre cette bouteille, je leur dis pas ce que c'est. Je sers à ces vignerons qui venaient de faire leur journée de salon, qui étaient complètement déprimés, parce que le principe des salons de cave particulière, c'est qu'ils mélangeaient tout le monde, et qu'on passait d'un Bourgogne à un Bordeaux, d'un Bordeaux à un Madiran, et entre les deux, on calait des gens du Languedoc, etc. Et ça fait qu'il y en avait des vignerons du Languedoc, début des années 90, dans les salons des caves particulières, ils voyaient passer les gens devant eux qui s'arrêtaient jamais à leur stand. Jamais. Et ils avaient tous le droit d'avoir une palette derrière eux pour vendre du vin. Ils redescendaient la palette à Montpellier. Donc, ils n'avaient pas tous le moral. Hein. Je résume un peu, il y en a qui vendaient déjà leur vin, mais enfin, c'était compliqué, hein, fin des années 80, début des années 90. Et donc, c'était le soir, ils se détendaient après leur journée de salon. Et je leur sers ce château de Nouvelle Fitou 78. Et là, ça a été... D'abord, ils ne savaient pas ce qu'ils buvaient. Hein. Mais il avait des défauts, ce vin. Et je le dis d'autant plus à l'aise que Dora Fort m'a dit « Mais quelle idée d'aller servir 78, mais c'est n'importe quoi, c'est quand même bien meilleur le millésime de l'année. » Bon, donc voilà, il n'aimait pas trop qu'on dise que ça se gardait, etc. Parce qu'ils avaient cette espèce de complexe. Et ces vignerons, quand je leur ai dit ce que c'était, ils ont retrouvé le sourire. Parce que c'était pour eux, c'était du Carignan, c'était le cépage maudit à l'époque, et pour eux c'était une fierté. C'était, je me souviens qu'ils disaient, ben voilà, ben donc on fait pas n'importe quoi. On est légitime à faire ce qu'on fait puisque les vieux ont été capables de faire ça. Alors c'était pas le meilleur vin du monde ce jour-là, mais pour eux c'était le meilleur vin du monde. Et il avait des défauts, ce Fitou, mais il avait la qualité d'exister et de pas être mort. L'éclat du fruit. Il avait la qualité de ne pas être mort. Et il a eu la qualité encore supérieure de redonner le moral à des vignerons qui se sont reconnus dans ce vin. Et la même bouteille, je l'ai servie, le même millésime, alors là c'était une antiquité, hein. Je l'ai servie dans les années, est-ce que j'ai noté ça ? Dans les années 2000, quelque chose comme ça, à des sommeliers cette fois, et à Nîmes, pas à Paris. Dans la tablée, il y avait Michel Hermé, qui à l'époque, qui a été président des sommeliers de France, etc. Donc, il y avait vraiment des amateurs de vin. Et pareil à l'aveugle. Et ce château de Nouvelle 78, j'en avais eu quelques bouteilles. Il m'a fait du profit pour faire des dégustations. Mais là aussi, la bouteille était bonne. Il y avait encore du vin dans la bouteille. Et je parlais d'indulgence tout à l'heure. C'est pas une obligation de tomber en pamoison sur le plan gustatif. Bien sûr que c'est exceptionnel quand ça arrive, mais les vieux vins, et je dis vieux vins plutôt que de dire vins matures exprès, même avec leurs défauts, même avec leurs cicatrices, ils ont des vertus qui vont au-delà du fait de boire du vin. Voilà. Alors évidemment, aujourd'hui sur le salon, il y avait Alain Chabanon, il y avait Jean-Baptiste Granier, qui sont à la hauteur de tous les grands vins qui sont présents ici. Ils n'ont plus rien à prouver. Le boulot, ils l'ont fait, mais les aînés, on ne les invitait pas à Vinapogé. D'abord, Vinapogé, ça n'existait pas, mais enfin, même si ça avait existé, voilà. Alors, je regarde un tout petit peu l'heure, oui, il va falloir conclure. Alors, c'est bien, entre professionnels et amateurs éclairés, de parler de la maturité des vins, mais il ne faut pas, ce que je disais au départ, que ça devienne de l'entre-soi. Parce que c'est quand même un peu mortifère, ce genre de choses. Il faut quand même savoir passer le relais. Voilà. Alors, un vin jeune, on va l'acheter et on le boit. Un vin vieux, sauf à avoir quelques moyens, c'est difficile d'acheter des vieilles bouteilles. On peut s'en payer une de temps en temps, sur une appellation relativement modeste. Bon, enfin, modeste en termes de prix, on se régalera, mais des grands vins, ou des vins... grande, vous le dites dans l'autre que vous voulez. C'est pas évident de se les procurer. Et c'est là que la notion de passage de relais est importante. Parce que pour les boire, les vieux vins, il faut bien que quelqu'un les fasse vieillir. Et si c'est le caviste ou le sommelier, ou le vigneron, il va vous les vendre. Hein. Et il va vous faire payer le stockage et le vieillissement des vins. C'est un peu trivial, mais enfin, c'est la vie. Bon. Donc, c'est le repas du dimanche, c'est la cave familiale, c'est l'initiation, c'est le passage de relais entre générations. Alors, je ne veux pas porter de jugement. Je disais tout à l'heure que c'est facile de passer pour un vieux je ne sais pas quoi. Donc, je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, gna gna gna, mais il n'y a plus de repas du dimanche et tout ça. Et puis, on peut le faire en dehors des repas du dimanche. Mais il faut trouver le moyen de le faire, quoi. Parce que si on ne passe pas le relais aux jeunes, Eh bien oui, vin apogée, un jour on aura tous 100 ans, là, vin apogée, et puis après on arrêtera de faire le salon, parce que je caricature évidemment, mais voilà. Alors savoir attendre, être patient, c'est une qualité, c'est peut-être pas dans l'air du temps, mais aujourd'hui on est quand même dans l'immédiateté, on vit l'instant, on vit le présent, on est dans la jouissance du présent, on est même dans une espèce de forme de jeunisme, c'est relativement d'actualité, hein, on va pas parler de politique, mais enfin... Et donc... on est là-dedans. Alors c'est très bien, c'est très bien. Moi je trouve que ça sert à rien d'attendre que les jeunes soient vieux pour leur donner des responsabilités. Mais en revanche, il faut aussi pas tomber trop du côté où ça penche. Voilà. Et il faut aussi rappeler un peu ce qui constitue les fondamentaux du vin. Et le vin, pas tous, mais le vin c'est fait pour vieillir. Voilà. Et s'il n'y a pas ce passage de relais... Eh bien, effectivement, c'est compliqué. Voilà. Alors, moi, j'aime bien de temps en temps, parce que je ne suis pas dans ma famille, tout le monde n'est pas dans le vin, comme je suppose que c'est le cas dans votre famille, dans vos familles aussi, tout le monde, à moins qu'il y ait des dynasties de cavistes ou de sommeliers, mais enfin bon. Et moi, j'aime bien parfois en fin de repas, même quand je suis. Même de temps en temps, des gens qui ne sont pas spécialement amateurs, mais qui ont un petit intérêt, sinon je ne le fais pas. J'aime bien ouvrir une vieille bouteille. Alors, du Fitou, j'en ai plus. Du Fitou 78, j'en ai plus. Mais heureusement, quand même, j'ai arrêté. Mais j'aime bien ouvrir une vieille bouteille. Ce que j'aime bien faire, c'est quand il y a des jeunes, c'est ouvrir une bouteille de leur date d'anniversaire. Parce que c'est des vins qui ont 18, 20 ans, ça va. Bon, je prends des appellations, quand même, les 20e. Et tant pis pour l'accord. Là, on n'est plus. Moi, je suis sommelier à la base, donc les accords mésamins, c'est un peu mon univers. Mais là, tant pis pour l'accord. Je leur fais à eux ce que Dupont m'a fait à moi en me sortant son Bourgogne. Et c'est pas nécessairement un très grand cru, mais c'est au moins une bouteille dont je sais qu'elle aura bien vieilli. Et tant pis si, dans un premier temps, la personne à qui je l'ouvre passe un peu à côté. Souvent, on va nous dire, mais il n'est pas un peu madérisé, ton vin ? C'est madérisé, les gens oxydés, personne ne connaît, c'est madérisé. Ben, je dis, oui, si tu veux, enfin, il faudrait nuancer, mais pourquoi pas, c'est une entrée en matière comme une autre. On va dire qu'il est madérisé. Bon. Et après, il faut expliquer que même madérisé, ce n'est pas un défaut. Enfin, ce n'est pas nécessairement un défaut. L'oxydation dans les vins, moi, je suis très amateur de vins jaunes du Jura et de rancio sec du Roussillon, pour faire quand même la part des choses avec ma région. Et c'est quand même... il faut expliquer les choses. Mais petit à petit, c'est comme les vieux champagnes. C'est comme les vieux champagnes. Le champagne, c'est d'abord dans l'élaboration, dans le cours de l'élaboration, les vins sont conservés, etc. Et puis les vieux champagnes, alors il faut prendre des belles cuvées hein, qui sont faites pour être gardées, mais enfin, qui ont cette capacité d'évolution. Mais les vieux champagnes, c'est délicieux. Moi, j'ai goûté des champagnes qui avaient 20, 25 ans, c'est absolument merveilleux. Bon, mais ça c'est pareil, le coup du madérisé, on vous le fait à chaque fois. Mais on place une petite borne de plus et on avance. Et c'est l'idée du passage de relais. Alors on explique, ça interpelle, on crée des doutes, c'est pas grave, on creuse un sillon, et puis des questionnements, et l'essentiel, à mon avis, c'est de créer l'envie. Voilà, comme ça ils viendront... Il viendra à Vinapogé. Voilà. Bon, c'est terminé. Voilà. Vous avez le droit de vous exprimer, de ne pas être d'accord, de dire des choses et tout ça. Vous n'êtes pas nombreux, mais si.
On revient à la transmission. Pour avoir la sensation que vous avez décrit cette petite larme, et pour à un moment donné se dire « Ah, ce vin est à son apogée », il faut bien sûr avoir fait l'expérience. Nature.
Bien sûr.
Donc,
mais oui, mais moi, des infanticides, j'en fais tous les jours hein, dans mon métier. Donc, c'est enregistré, ça, je ferais bien de faire attention. Il faut le remettre dans le contexte. Hein. Mais oui, évidemment, des vins jeunes, on en goûte, on fait pire que ça, nous. C'est qu'on va goûter dans la cuve, on va goûter dans les fûts, les vins qui sont en élevage, en pleine prise de bois, etc. etc. Donc, on les suit de la naissance... À toutes les étapes de la vie. Donc, effectivement, il faut. Mais je crois, ce qui est magique, c'est quand même qu'à un moment donné, quelqu'un qui n'a pas tellement de recul peut le ressentir aussi, ça. Une émotion. Tu n'es pas obligé d'avoir étudié l'histoire de l'art pour tomber en arrêt devant un tableau dans un musée. Et dire ça, voilà. Bon, je ne pourrais pas me le payer parce que c'est un grand maître et que ça vaut des millions, mais ça, oui, si on me le donne, je pars avec, quoi. Bon, et puis on peut rester, voilà, moi j'ai vu des gens dans des musées qui restaient comme ça. Et ce n'est pas nécessairement l'émotion, une belle musique, la musique classique particulièrement. Bon, c'est, voilà, je pense qu'on n'est pas obligé d'être un expert, ni même connaisseur. Je pense que cette émotion, quand le vin est dans cet état, et surtout quand il peut créer cet état, alors je pense aussi, il faut être honnête, il y a les circonstances. Mais là, je n'étais pas avec ma fiancée, j'étais avec Jacques Dupont. Donc, alors on est amis, certes, mais je veux dire par là, les circonstances n'étaient pas spécialement porteuses d'émotions. On était là, deux copains, on buvait un coup. Bon. Un coup, pas n'importe quoi, mais on ouvrait une belle bouteille, voilà, pour le dire correctement. Mais évidemment que l'ambiance peut jouer aussi, bien entendu. Mais malgré tout, il y a une espèce de petite... quand on a un peu de recul, ou un peu beaucoup, il y a une forme d'objectivité quand même. On ouvre la bouteille, on le sent que le vin est bon, voilà. Mais je crois, comme je disais tout à l'heure, qu'à mon avis, ça peut se passer de mots, je pense aussi que ça peut se passer de référence, quoi. Quand c'est très bon, c'est très bon. Il me semble. Et c'est la magie des vins à maturité, quoi. Des vins qui sont... où tout se cale petit à petit, et un jour, tout est calé, quoi. Et tu le bois ce jour-là... Moi, je ne sais jamais les commenter. Enfin, bien sûr que si je le fais pour le journal, mais sinon, je ne les commente pas, ces vins-là. Il faut les savourer, quoi.